On est bien ensemble, oui on est bien ensemble, alors restons ensemble, je vous accompagne jusqu'à midi avec comme chaque jour nos rubriques habituelles. Alors au menu, au programme, à partir de 10h on parle cuisine avec Nathalie Elal. On cuisine ensemble hein, avec vos idées, vos astuces, vos recettes. Aujourd'hui on s'intéressera au café, voilà, le café, lequel choisir, les meilleurs, les moins bons. Et puis le café dans différents plats, pourquoi pas, évidemment sucré, mais pourquoi pas salé, allez savoir. C'est à partir de 10h à 11h nous jouerons au Grand Paris et je vous offrirai aujourd'hui vos invitations pour aller dimanche prochain au studio 104 de la maison de la radio pour le nouveau France Bleu Live avec sur scène les Kids United Forever Gentlemen. Camille Berthollet, vous savez, c'est la jeune violoniste qui a été récompensée lors de l'émission Prodige. Voilà, une après-midi, hein, puisque ce sera effectivement la semaine dimanche prochain dès 17h au studio 104 de la maison de la radio. Préparez-vous, j'ai vos invités. Mais tout de suite, place aux experts. 9h09. Bonjour tout le monde, bonjour Yann Mercœur.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes coach en entreprise, vous intervenez dans toutes ces entreprises, petites, moyennes ou grandes. Lorsqu'on travaille en équipe, il y a souvent des problèmes. Vivre ensemble, hein, le vivre ensemble, c'est déjà pas facile. Alors travailler ensemble, eh ben c'est également pas si difficile.
C'est aussi un défi.
Exactement. Les relations difficiles avec mon boss. Alors si vous avez vécu ce genre de relation, hein, racontez-nous un petit peu ce que vous avez fait ou ce que vous faites actuellement. Si ça se passe mal avec un supérieur hiérarchique, est-ce que vous avez vécu ce genre de choses, jusqu'où ça peut aller et comment faire pour régler cette situation qui de toute façon n'est pas bonne. Ça veut dire quoi précisément, Yann Mercœur, cette relation difficile avec son boss ?
Alors effectivement, Laurent, vous avez raison, il faut préciser les choses. Qu'est-ce qu'on appelle une relation tendue ou une relation difficile avec un supérieur hiérarchique ? Alors en gros, il y a quelques cas de figure assez classiques. Oui. Ça peut être quand on a une perception de son chef comme un tyran, vous voyez, quelqu'un qui est très autoritaire
qui est beaucoup
dans le contrôle, le surcontrôle, comme on dit même, oui, et qui va vous compliquer la vie au quotidien. Ça peut être aussi, vous savez, les tempéraments vus comme caractériel, hein, les gens qu'on dit un peu soupe au lait, ceux qui s'enflamment pour un rien, avec qui c'est toujours difficile, on ne sait jamais si on peut leur parler, c'est le bon moment ou pas, et la situation va vite s'enflammer ou déraper. Ça peut être aussi les supérieurs qui sont très critiques. Vous savez, ceux qui voient toujours le petit détail qui ne va pas, plutôt que de savoir aussi encourager, reconnaître le travail accompli. Et puis, ça peut être malheureusement aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les harceleurs, c'est-à-dire ceux qui ont des comportements de type agressif ou agressifs passifs, hein, qui n'ont pas l'air si agressifs, mais qui finalement le sont beaucoup, et qui vous polluent la vie, qui rendent, je dirais, la relation très toxique, et qui font que c'est très compliqué de travailler ensemble au quotidien.
D'accord, donc ça c'est les différents caractères du fameux supérieur hiérarchique, qui sont d'ailleurs perçus de façon extrêmement différente, voilà, selon les gens qui travaillent
c'est
avec
eux. C'est pour ça que je parlais de perception, c'est pas forcément une réalité, mais c'est comme ça que ça se passe, et après ça engendre du coup dans la relation des conséquences, puisque vous-même, vous allez vous mettre en posture défensive, en compensation, et c'est comme ça que vous allez aussi vous-même participer à cette mauvaise relation en amenant des mauvaises choses.
Évidemment, il ne faut pas laisser installer ce genre de situation.
Il faut éviter, et en général, quand on commence à s'en rendre compte, c'est que déjà la situation est assez avancée, et malheureusement, on a tendance à reporter. Pourquoi ? Parce que les difficultés relationnelles, c'est toujours compliqué à gérer, mais alors quand en plus, il y a un rapport hiérarchique en cause, ça devient extrêmement délicat.
Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs solutions, notamment peut-être se remettre en cause, peut-être aller lui parler, je ne sais pas. Mais j'attends justement des témoignages, des exemples pour poser un petit peu ce problème de façon qu'on soit bien dans la réalité. On aura justement le témoignage de Daniel que je vous propose d'accueillir dans 3 minutes, juste après ça. Iceland.
or the Philippines, or Hastings, or this place.
One night in Bangkok, in the world's star buster. The bars are temples, but the pulse ain't free.
One Night in Bangkok, c'était Murray Head sur France Bleu 107.1.
France Bleu 107.1 vous fait vivre les plus gros événements parisiens et vous invite au Salon de la Moto 2015. Vivez l'événement comme si vous y étiez. France Bleu 107.1 installe ses studios à Paris Expo du 1er au 6 décembre prochain. Pour découvrir toutes les nouveautés et les exclusivités du Salon de la Moto 2015, écoutez France Bleu 107.1. Gagnez vos places et venez nous rejoindre, porte de Versailles. France Bleu, votre meilleur partenaire emploi et formation.
Vous cherchez un emploi?
Vous voulez suivre une formation? Déposer un CV?
France Bleu et Région Job vous offrent les meilleures opportunités dans votre région.
30 000 offres d'emploi, des formations, les actus de l'emploi à retrouver sur francebleu.fr.
L'emploi sur francebleu.fr, rubrique emploi.
France Bleu 107.1.
9h17, c'est l'heure des experts sur France Bleu 107.1. Comment se comporter lorsque les relations avec son supérieur hiérarchique sont très mauvaises ou mauvaises tout simplement? Yann Mercœur est avec nous aujourd'hui, expert puisqu'il est coach en entreprise, et Daniel va nous raconter un petit peu comment ça peut se passer sur le terrain. Bonjour Daniel.
Bonjour Daniel.
Daniel, il est salarié dans la fonction publique, hein, je le précise. Et il... Ah, le voilà. Ça va, Daniel?
Oui, très bon. Bien. Bah, ça roule plutôt pas mal, donc oui. Je suis content.
Bon, bah tant mieux. Vous allez d'où à où, vous, ce matin?
De Porte des Lilas jusqu'à Porte de Saint-Ouen. Donc, du coup, je récupère le périph à la Porte de Pantin.
À la Porte de Pantin, mais vous prenez le périph, mais vous allez... Oui, d'accord, ok. Bah, parce qu'après, c'est bloqué, hein, vous le savez, c'est fermé. Hein.
Voilà, c'est ça.
D'accord, très bien. Bon, alors Daniel, vous travaillez dans la fonction publique et votre employeur, votre patron, enfin celui qui est au-dessus de vous, il a installé une mauvaise ambiance avec vous ou avec tout le monde d'ailleurs?
Bah non, en fait, il essaye justement de nous diviser. En fait, à l'époque, moi, quand je suis arrivé il y a 8 mois, tout le monde déjeunait ensemble. Depuis qu'il est arrivé, il aimerait qu'on déjeune plus ensemble.
Ah bon?
On se retrouve plus. Ah ouais, c'est... Donc du coup, moi avant, je mangeais à 12h30, maintenant il me demande de manger à 13h15, alors que tous mes collègues mangent à 12h30.
Et vous savez pourquoi il fait ça? Est-ce que c'est contre vous particulièrement ou alors c'est vraiment pour instaurer une ambiance division pour mieux régner?
Bah, je pense que c'est plutôt ça, le deuxième cas de figure. Ça fait partie du lean management, quoi.
Et est-ce que vous avez déjà essayé de dialoguer avec lui, de comprendre un peu sa façon de faire, sa façon de régner, ou de, si je peux m'exprimer
Non, pas vraiment, quoi. Il ne me donne pas vraiment non plus l'envie, quoi, de discuter
D'accord.
avec.
Donc, du coup, vous allez travailler à reculons?
Bah, pas à reculons, parce que j'aime ce que je fais, mais... Voilà,
ouais,
c'est...
Ouais, ouais.
En fait, moi, ma question, c'était simplement... Parce qu'en fait, il m'oblige plus ou moins à travailler tous les samedis, n'ayant jamais deux jours consécutifs.
Oui.
Donc, est-ce que le spécialiste pourrait me répondre là-dessus?
Alors, notre expert, alors, c'est peut-être pas...
Alors, c'est pas dans ma, dans mon champ de compétences de répondre sur le plan légal. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, Daniel, c'est qu'il y a forcément des représentants du personnel et vous pouvez forcément prendre conseil. C'est peut-être la première chose à faire. Ne restez pas seul avec vos interrogations. Allez demander. Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui sont dans la même situation et comment ça se passe?
Ouais.
Bah, il y a des gens, non, parce que eux, ils sont relativement fermes quand ils disent non. Moi, je lui ai dit, bah, à négocier. Donc, on
à négocier.
Rien.
Mais il y a des délégués du personnel. Il y a des gens qui vous défendent
oui,
quand même.
Faut
y aller.
Et bah, allez demander si déjà l'obligation est vraiment une obligation ou si c'est juste parce que lui l'a décidé et que c'est un arrangement entre vous. Parce que ça, c'est important. Mais la deuxième chose que j'entends, Daniel, dans ce que vous dites, c'est qu'il y a peut-être une difficulté pour vous aussi à vous positionner avec lui parce que j'ai l'impression qu'il vous impressionne, que vous n'avez pas osé lui parler. Alors, peut-être que vous pourriez aussi vous rapprocher de certains collègues et qui peuvent aussi vous aider par rapport à ça et vous conseiller, puisque vous avez aussi des gens avec vous avec qui vous entendez bien, j'imagine.
Ah oui, super bien même.
Bon, bah alors, et ben voilà, donc il faut pas rester seul dans votre interrogation.
J'ai l'impression que Daniel est pas dans cet établissement depuis très longtemps non plus, hein. Vous êtes là...
Ça fait 8 mois.
Ah oui. Voilà, donc en général, c'est le petit dernier qui prend. Non,
bien sûr, mais d'où l'intérêt aussi de faire jouer les alliances avec les gens de l'équipe, ouais, hein, qui peuvent être de bons conseils et qui peuvent aussi vous donner peut-être quelques tuyaux. Parce que vous savez, souvent, la difficulté, c'est comment réagit le supérieur et comment est-ce qu'il faut l'aborder. Et là, c'est peut-être par rapport à des plus anciens que vous pouvez avoir des infos intéressantes.
En tout cas, ce qu'il faut
Lui aussi vient d'arriver.
Ah, d'accord. Ah, bah, alors là, il veut peut-être aussi poser sa marque.
Alors, dans ces cas-là, oui. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous n'ayez pas eu, enfin, je sais pas, vous nous l'avez pas dit d'ailleurs, mais un entretien avec lui où il aurait pu vous expliquer des choses et vous aussi lui parler, parce que normalement, vous avez au moins un entretien annuel, si ça n'est pas encore le cas, et ce serait bien que vous ayez à un moment donné un vrai échange.
Bah oui, il ne faut pas laisser installer ce genre de situation de toute manière. Il ne faut pas laisser plus longtemps. Donc allez hop, réagissez. D'accord, Daniel?
C'est ça, complètement.
Bon, bah bon courage pour aujourd'hui. Hein.
Bon courage.
Merci à vous.
Bonne journée à tous.
Merci.
Bonne journée.
Oui, c'est vrai que ce genre de situation, là, c'est un une petite mise au point qui est nécessaire.
Oui.
Et le réflexe naturel, j'ai envie de dire, de Daniel, c'est qu'il se sent effectivement peut-être un petit peu... harcelé, mais...
Non, il se sent sans doute déstabilisé par le fait qu'il vient d'arriver, ouais, il n'ose pas dire certaines choses, et donc il utilise ce qu'on appelle un des modes qui est inadapté pour ces situations, c'est le fait de se mettre en retrait, de s'effacer ou de ne pas oser dire quelque chose, ce qui fait que derrière, ça va envoyer un signal fort à son supérieur qui est, finalement, puisque j'ai pas de limite, je peux demander des choses ou même peut-être continuer à aller à pousser la limite plus loin. Donc vous voyez, c'est important qu'à un moment donné, Daniel se place en interlocuteur et pas seulement en victime ou en quelqu'un qui n'aurait pas les capacités à réagir.
Tout à fait, mais encore une fois, naturellement, tout est normal, il se sent un petit peu victime.
Et ça peut se comprendre, hein, parce qu'encore une fois, il est peut-être impressionné aussi par le statut de son supérieur hiérarchique. Après, comme je dis souvent, il y a une équipe et il y a aussi des gens autour de vous. Il ne faut pas tout de suite se sentir seul et forcément obligé de réagir seul. Il faut faire appel à des gens qui sont autour et puis vous avez aussi, après, des instances quand c'est nécessaire par rapport au plan plus juridique ou légal, et n'hésitez pas à aller les consulter, ne serait-ce que pour un conseil. On n'est pas obligé d'engager des actions, mais on peut au moins demander du conseil, ça c'est déjà le premier réflexe.
Bon, alors quand la situation est là, qu'on ne s'entend pas du tout avec son supérieur hiérarchique, il y a évidemment des engueulades, il y a des tensions, il y a même parfois des murs totalement infranchissables pour le dialogue. Comment faire? Quelles sont les solutions, les pistes? En tout cas, Yann Mercœur, vous allez nous les donner dans quelques instants. Encore une fois, on aura un autre témoignage très intéressant, c'est celui de Myriam. Patientez Myriam, on vous accueille après ça.
like fire beneath the eyes, and it never turned bone demise. Standing on the edge, jumping into hurt. Time and time again, I will never learn. And I should cut all the ties, let it burn, then walk away from you. There's beauty in suffering. Smothers me in my narrow boots. On the rocky ground is where my angels fly. I know I'm dancing with the devil. Ain't no chance of heaven, going straight to hell. I know I'm dancing with the devil, darkening up my heaven, brightening up my hell.
Dancing with the Devil, c'était Marina Kaye sur France Bleu 107.1. Notre expert ce matin, Yann Mercœur, coach en entreprise. Comment ça se passe quand ça se passe mal avec son supérieur hiérarchique? Ça peut aller loin, hein. Le témoignage de Myriam est très intéressant. Bonjour Myriam.
Bonjour Myriam.
Bonjour, merci de me prendre à l'antenne.
Il n'y a pas de souci.
Bonjour à vous.
Ben, je pense que vous êtes, pas représentatif, je l'espère, de beaucoup, beaucoup de personnes, mais au moins, ce que vous allez nous raconter prouve que lorsque ça se passe mal, la situation se dégénère, ben, ça peut aller loin, notamment pour vous.
Oui, tout à fait. Donc, je précise le contexte.
Oui.
Parce que c'est important.
Bien sûr.
En fait, je travaillais sur un site qui devait fermer. Il se trouve que le site n'a pas fermé, on a dû changer de métier, mais on s'est battu bien évidemment pour que le site ne ferme pas. Donc la contrepartie de la non-fermeture, c'était de changer de métier, et donc on m'a confié la responsabilité de mettre en place une équipe de 12 personnes,
oui,
avec l'accompagnement de cette équipe en changement de métier.
D'accord.
Voilà, donc on m'a confié ça dans un couloir, sans écrit bien sûr, sans rien, et on m'a dit tu as 3 mois pour le faire.
Waouh.
Donc, en allant chercher l'activité à 800 kilomètres.
Voilà, oui, effectivement.
Ah oui.
Voilà,
d'accord.
Donc ça, c'est le contexte.
D'accord.
Il se trouve que tout le monde était attaché au site pour des raisons familiales et autres. On n'avait pas envie de... Voilà, donc la pression était quand même un petit peu là. Il fallait réussir, pour moi, cette création d'équipe, si on voulait maintenir notre activité professionnelle sur ce site. J'ai eu des problèmes avec mes deux supérieurs hiérarchiques. Le supérieur hiérarchique direct, responsable du site, et le chef de service sur Paris. Qui étaient bien évidemment en complot, dans le sens où en fait ils m'ont laissé complètement faire ma mission, mais sans moyens.
Oui.
Je n'avais aucun moyen. Donc je me suis battue pour que ça réussisse avec l'équipe. Et nous avons réussi, mais au détriment de ma santé, c'est-à-dire que j'ai fait un burn-out.
Ah oui, parce que vous avez vraiment pris à bras le corps cette mission, plus des relations tendues.
La mission qui m'a été confiée, comme tout le monde, l'enjeu pour moi, c'était de continuer à travailler sur le site et de ne pas partir travailler à 100 ou 200 kilomètres. Donc j'ai pris à bras le corps la mission, j'ai réussi la mission sans aucun moyen, toute seule. En faisant beaucoup d'heures, et voilà, sans aide bien sûr de la hiérarchie, qui quand j'avais un problème, bien sûr, je faisais des écrits. Je faisais beaucoup d'écrits en disant j'alerte, j'ai besoin de tel moyen, ou j'alerte, je vais être en difficulté. Et par rapport à la mission qui m'est confiée, Et malgré les écrits, je n'avais aucune réponse. Dès que je cherchais à voir le chef de service qui m'avait confié cette mission, ou le chef d'équipe, en fait, il fuyait. Ils fuyaient leurs responsabilités. Donc, ne pouvant avoir aucun interlocuteur, j'ai appelé personnellement le directeur.
Oui.
Je ne me suis pas laissée démonter. J'ai appelé le directeur qui a appelé mon chef de service, qui, mon chef de service, m'a incendié parce que j'étais montée un cran plus haut.
Ah oui, d'accord, évidemment.
Et quand, en fait, la situation est restée telle quelle, c'est-à-dire que j'étais toute seule sans interlocuteur, tout en sans le voir, évidemment, détruisant ma santé au travail. À un moment donné, je suis tombée malade, j'ai craqué. Donc le burn-out s'est prononcé en 6-8 mois.
D'accord. Donc là, vous étiez complètement à out, fatigué.
J'étais complètement à out, mais en attendant, j'ai vu le médecin du travail. Parce que je me suis dit que c'est aussi un interlocuteur qui peut m'aider.
Et alors,
en fait, le médecin du travail m'a juste dit qu'il fallait que je relativise.
Voilà.
Donc, en fait, j'ai dit, moi, je compte sur vous, parce que là, les conditions de travail sont pas bonnes, ni pour moi, ni pour l'équipe, en fait, parce que l'équipe me soutenait jusqu'à une certaine limite, en fait, quand ils ont vu que eux-mêmes, ils ont eu peur, en fait. Ils ont eu peur d'aller trop loin dans leur soutien.
Et vous avez été arrêtée, finalement
J'ai été en arrêt de travail pendant 6 mois.
Ah, 6 mois, quand même.
Donc, il se trouve que dans le grand groupe dans lequel je travaille toujours, d'ailleurs, il y a une mise en place d'une aide externe de psychologue.
Ah, d'accord.
Donc, j'ai appelé en étant en arrêt de travail cette aide de psychologue qui m'a dit, il faut lever l'anonymat et votre dossier va remonter encore plus haut que votre directeur.
Ah, d'accord.
Ce que j'ai fait.
Ouais.
Le dossier remontait plus haut, donc j'ai constitué un dossier écrit puisque j'ai gardé toutes mes preuves d'alerte et mon dossier était, on va dire, bétonné. Dans le sens où j'avais toutes les preuves que je n'avais aucune réponse à mes alertes, aucun soutien, aucune aide de la part de ma hiérarchie face à tout ce que je remontais.
Vous êtes défendu, quoi. Oui. Et alors
nous avions été convoqués, le chef de service et moi, par le directeur des ressources humaines, qui a demandé à mon chef de service de s'engager oralement à changer d'attitude.
Très bien.
Donc oral, très bien, sauf que oralement devant le DRH, il s'est engagé. En sortant, il m'a invité au restaurant, il m'a dit tout ce que je viens de dire, ça ne se reproduira pas, parce que j'ai simplement joué... pour pas que ma carrière, parce que évidemment c'est une personne très carriériste. Donc pour ma carrière, j'ai joué ce jeu, mais sache qu'en réalité, je continuerai à fonctionner comme je l'ai fait auparavant.
Mais comment vous êtes tirée de cette affaire, Myriam, alors finalement ?
Alors je m'en suis tirée en fait après médecin du travail, personne, système DRH, personne. Donc j'ai refait les mails au DRH qui m'avait dit, écoutez, si ça se passe pas bien. Donc j'ai repris le travail à mi-temps thérapeutique et j'ai demandé au DRH à changer de service.
Voilà.
Il m'a dit non, parce que votre chef de service veut vous garder dans son service. Il est content de vous. Et entre-temps, il m'a augmenté d'ailleurs, ce qui est... En fait, il est reconnaissait mes compétences, mais il a décidé de les exploiter à des fins personnelles.
D'accord.
Pour sa carrière. Et en fait, il le disait ouvertement au comité de direction, puisque je participais au comité de direction. Il disait, écoute...
Et aujourd'hui, Myriam, on en est où ?
Alors aujourd'hui, alors bien sûr, je ne travaille plus avec cette personne puisqu'elle a muté. Ouais. Elle a eu aucune sanction.
D'accord.
Et en fait, j'ai dû retaper un cran au-dessus, qui est le directeur des ressources humaines France.
D'accord. Et alors, on vous a changé de poste, vous
du
avez.
Tout.
D'accord. Ah bon. Mais les relations sont meilleures.
La volonté, c'était de me conserver dans le service parce que mes compétences sont reconnues.
D'accord. Donc du coup, là aujourd'hui, celui qui vous harcelait, on va dire, lui a été muté. Et vous êtes resté à votre poste et vous allez mieux.
Je vais mieux. Et alors, ce qui m'a satisfait pour conclure, c'est que nous avons eu un entretien individuel avec son successeur et lui. Mmh. Et lors de cet entretien, il a reconnu tous les faits.
D'accord.
Et ça, ça a été une grande satisfaction pour moi et il m'a redonné une augmentation.
Mais c'est un chemin long et qui vous a fait...
Ça a duré 2 ans.
2 ans, ah oui, c'est très long.
Deux ans, très long. Et la difficulté, c'était de n'avoir aucun interlocuteur qui ne puisse faire changer d'attitude.
Ben merci beaucoup Myriam pour ce témoignage parce que finalement on s'aperçoit que ça peut aller très très loin et que ça peut durer très longtemps si on prend pas le problème à bras le corps dès le début. Merci Myriam en tout cas.
Merci Myriam.
Et bonne journée à vous. Merci Myriam et on est content que ça se termine bien. Au revoir
Myriam. Merci, au revoir.
Bonne journée, bon courage. On va revenir là-dessus avec effectivement les bonnes réactions, les bonnes attitudes à avoir avec vous Yann Mercœur dans un instant.
France Bleu.
Pour retrouver tout France Bleu 107.1 dans votre poche, téléchargez la nouvelle application France Bleu.
Le Petit Prince s'invite à Versailles pour fêter ses 70 ans avec France Bleu 107.1. Une exposition pour toute la famille, présentant de nombreuses pièces exceptionnelles pour découvrir ou redécouvrir toutes les facettes du personnage de l'œuvre de Saint-Exupéry.
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
Le Petit Prince à Versailles, c'est à l'espace Richaud de Versailles jusqu'au 28 février. Un véritable moment de poésie avec France Bleu 107.1.
France Bleu et le Cirque Pinder vous invitent. Pinder, un spectacle familial dans la grande tradition du cirque. De la magie, un superbe ballet acrobatique. Les grandes illusions de Sophie Edelstein. Les 12 lions blancs de son frère Frédéric. Et beaucoup d'autres numéros à sensation. Pinder, le géant des cirques. Dès maintenant et jusqu'au 24 janvier sur la pelouse de Reuilly à Paris, puis en tournée dans toute la France en 2016.
Un événement France Bleu. Retrouvez toutes les informations sur francebleu.fr.
Avec France Bleu 107.1 et la page Transport du Parisien, on fait la route ensemble.
Sous les nuages aujourd'hui, mais aussi les éclaircies, dans une température plutôt douce, 13 degrés au meilleur moment de la journée. Sur la route, c'est ouvert. Laurent Borde ?
Ah oui, c'est ouvert. 8 km seulement de ralentissement cumulé et de nombreuses fermetures en revanche dues à la COP21. La 1 est fermée dans les deux sens entre Roissy et la Porte de la Chapelle. La Nationale 2 est fermée entre le Blanc-Ménil et Aubervilliers. Les bretelles de bifurcation de la 3 vers la 1 en direction de Paris sont fermées à Roissy et Aulnay. La 86 intérieure est fermée vers la 1 au niveau de la Courneuve. Et puis le périphérique est fermé en extérieur entre la Porte de Pantin et la Porte de Champéret. A noter d'ailleurs que l'accès au périphérique extérieur est impossible en venant de la 3. Et puis Thierry nous a appelé pour nous signaler sur le périphérique extérieur, juste après la Porte de Saint-Cloud, deux roues en panne sur la file de gauche pour l'un et l'autre. L'autre est sur la file de droite. Périphérique intérieur est fermé entre la Porte Maillot et la Porte de la Chapelle. Et puis le tracé est toujours sécurisé entre la Place de la Concorde et la Porte d'Anières en passant par la Place de la Madeleine et le boulevard Malesherbes. Côté transport, enfin, eh bien, les lignes 1, 8 et 12 du métro, la station Concorde est fermée. Il n'y a pas de Roissy bus en ce moment. Sur la ligne H du Transilien, le trafic est interrompu entre Persamp et Paris, ainsi qu'entre Luzarches et Paris. La ligne L est au ralenti. Sur la ligne P, plusieurs trains sont supprimés entre Meaux et La Ferté-Milon.
Merci, prochain flash info trafic juste avant 10h.
À se demander.
Ville de lumière, Gold sur France Bleu 107.1. Yann Mercœur, alors merci pour tous vos témoignages. On a eu encore une fois un témoignage tout à l'heure à l'instant de Martine. Martine, écoutez bien, évidemment, on a pris en compte ce que vous nous racontiez. Ça a dégénéré, elle a carrément elle aussi tombée malade et gravement à cause d'une situation effectivement très compliquée, conflictuelle avec son supérieur hiérarchique. Que faire dans ces cas-là, Yann Mercœur, coach en entreprise, je le rappelle.
La situation est toujours unique, c'est ça qu'il faut déjà se dire, et elle est forcément complexe. Ouais. Donc, la première des choses à faire, c'est de se poser la question à soi déjà, qu'est-ce que je veux ? Parce que dans cette situation-là, on peut être tenté de vouloir des choses qui ne dépendent pas de nous. Si vous voulez que votre chef change complètement, devienne quelqu'un d'autre, vous allez passer beaucoup d'énergie à manipuler ou à essayer d'orienter les choses dans cette optique-là, et ça ne va évidemment pas marcher.
Il faut se dire que lui, il changera pas.
Il faut se dire surtout que s'il y a une partie du travail à faire, elle me concerne et elle est à mon niveau. Okay. C'est plutôt là qu'il faut mettre son énergie.
D'accord.
Donc du coup, la première chose à faire, c'est peut-être de prendre du recul, comme vous disiez tout à l'heure, et pour être aidé dans la prise de recul, ce qui peut être parfois très utile, c'est d'en parler avec quelqu'un qui est un ami ou quelqu'un de confiance, ou même d'aller prendre conseil avec quelqu'un qui a, lui, du recul.
Et qui travaille avec moi, bien sûr.
Voilà, et qui a du recul parce qu'il connaît l'entreprise, donc ça peut être un représentant du personnel. Ça peut être des fois des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les cellules RPS, c'est-à-dire de risques psychosociaux, les cellules psychologiques. Ça peut même être un collègue qui a été formé pour gérer des situations conflictuelles. N'hésitez pas, demandez, parce qu'il y a autour de vous souvent des gens qui ont des compétences que vous n'avez pas forcément et que vous pourriez utiliser dans ce cadre-là.
Donc déjà, je reste pas tout seul dans mon coin avec
Je ne reste pas seul et j'évite d'attendre évidemment que la situation dégénère. Souvent, le réflexe, c'est de se dire « c'est pas si grave pour l'instant, je peux encore le gérer ». Puis au moment où ça devient insupportable, vous voudriez que ça change. Et là, évidemment, ça va être très compliqué de faire d'un coup de baguette magique une transformation de la situation.
Très bien.
Alors, l'autre chose importante, c'est qu'on peut aussi se dire que la situation mérite peut-être un médiateur. Si vous n'arrivez pas à dialoguer avec votre patron, parce que la première des choses à faire, c'est quand même d'instaurer un dialogue. Donc vous avez un entretien annuel d'évaluation qui est souvent l'occasion aussi de se dire des choses. Si vous n'avez pas l'occasion d'avoir cet entretien tout de suite, demandez un rendez-vous, préparez le rendez-vous. Vous savez, ces situations, Laurent, elles sont délicates et en même temps, elles nous permettent aussi d'apprendre à faire des choses. Souvent, ces situations s'installent parce que nous, il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire, comme par exemple poser une limite. Par exemple, on ne sait pas dire non, et du coup, après, on se reproche de ne pas dire non, et on reproche à son chef d'abuser. Donc, ce sont malheureusement des situations douloureuses ou parfois délicates, mais qui nous demandent d'apprendre à faire quelque chose. Donc, n'hésitez pas, prenez rendez-vous, prenez contact avec le supérieur, et tâchez d'abord d'essayer de régler la situation entre vous. Si ça devient compliqué, n'hésitez pas à passer au niveau supérieur. On a eu tout à l'heure dans le témoignage de Myriam, un bon réflexe. Parfois, si la situation est trop complexe, il faut aller chercher un appui, je dirais sur le N+2, comme on dit, c'est-à-dire le chef de votre chef.
D'accord.
Et ça, ça peut être très important parce que si s'est installé quelque chose entre vous, mais qui est un peu clandestin et que personne ne connaît, si vous n'alertez pas, si vous ne le dites pas, on pourra vous reprocher ensuite de ne pas avoir.
D'ailleurs, elle s'est très bien défendue en conservant des courriers, des mails, j'imagine.
Et c'est aussi une chose importante.
Où elle exprimait son désir de régler ce problème, mais qui n'était pas écouté.
Voilà. Et c'est important aussi d'avoir des traces écrites. Donc, dans ces cas-là, constituez aussi un dossier parce que. Au moment venu, vous aurez besoin de pouvoir expliquer tout ça. D'accord. Et puis, si la situation est tendue, il y a aussi une petite astuce que je vous conseille, c'est de noter sur un journal toutes les choses qui vous paraissent injustes ou difficiles. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, il y a eu telle réflexion dans la réunion, et puis hier, il m'a reproché telle chose alors qu'il ne me l'avait pas demandé. Commencez à tenir ce qu'on appelle un journal, qui va vous permettre aussi de prendre du recul, et ensuite de ne pas basculer que dans l'émotionnel, mais de rester dans des faits.
C'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais de ce journal? Je le relis et je me dis, tiens, finalement, c'était pas si grave?
Eh ben non, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me dis, mais c'est quand même étrange, ça fait 4 fois cette semaine qu'il se passe ça, donc il est urgent d'agir. Okay, vous voyez, c'est quelque chose qui nous permet de prendre du recul pour ne pas uniquement se dire, c'est une impression. Il y a des faits, et parfois, en les notant à chaud, on s'en souviendra mieux au moment venu. Et puis peut-être la dernière chose à se dire, c'est que la situation va mériter du temps, des efforts. Hein, elle va se résoudre, mais étape par étape. Et donc, si vous êtes vraiment dans cette difficulté, n'hésitez pas, encore une fois, à aller chercher une aide extérieure, un médiateur, parce que c'est bon pour votre équilibre psychologique de travailler dans des conditions normales.
Tout à fait.
Et petit à petit, quand on rentre dans ce mode de fonctionnement avec peut-être du harcèlement ou de la maltraitance, eh bien, vous avez des conséquences sur votre santé. Et rien ne justifie que votre santé soit attaquée au travail. Donc, soyez vraiment vigilants. N'hésitez pas, même si vous avez vu le médecin du travail, à aller voir un deuxième avis, un autre professionnel. Mmh. Et normalement, si vraiment la situation ne s'améliore pas, eh bien, il faudra peut-être prendre une décision qui est changer de service, demander une mutation. Mmh. Mais encore une fois, vous avez votre part de responsabilité et vous êtes la personne la plus responsable de vous. Ne vous mettez pas en victime. Cherchez vraiment à agir et ne pas subir.
Merci beaucoup Yann Mercœur pour tous ces bons conseils, en tout cas ces pistes pour régler ce genre de problème qui peut aller, effectivement on l'a constaté grâce à vos témoignages, très très loin. Oui. La petite phrase sur laquelle nous allons réfléchir.
Alors changeons nos habitudes Laurent, ne faisons pas toujours la même chose, souvenez-vous que ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité.
C'est joli. Merci beaucoup Yann Mercœur.
Bonne journée, bonne semaine.
Il est 10h moins le quart. Demain, même endroit, même heure, nous serons en compagnie d'une avocate spécialiste du droit des automobilistes, Maître Claire Bouteau de la Combe. Et bien sûr, on écoutera tous vos problèmes de verbalisation. Vous pouvez contester dans de très nombreux cas. Rendez-vous demain matin dès 9h.